ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.
Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission d'octobre consacrée à un poète que je connaissais jusqu'à maintenant à travers quelques textes seulement. Et j'ai éprouvé récemment l'envie de m'intéresser de plus près à lui. Il s'agit de Jean Follin, dont j'ai retenu un certain nombre de poèmes issus de deux de ses ouvrages parus dans la collection Poésie de chez Gallimard. Ce sont d'ailleurs ses premières publications. Il s'agit de « Exister », qui paraît en 1943, et viennent ensuite « Usage du temps » et « Territoire », deux recueils parus respectivement en 1947 et 1953. En lisant Jean Follin, j'ai le sentiment de voir vivre à travers sa poésie un monde révolu, dans lequel je n'ai pas moi-même vécu, mais que j'ai pu connaître à travers l'expérience de mes parents, un univers d'avant la modernité, avec une société encore essentiellement composée d'artisans, d'ouvriers, de paysans, une société un peu étriquée, repliée sur elle-même, à mille lieues évidemment de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il y a dans ce monde-là un goût d'authenticité, de simplicité, qui fait naître en moi une certaine nostalgie, liée sans doute au fait que je ne me reconnais guère dans l'enthousiasme de beaucoup de mes contemporains pour les bienfaits de la technologie moderne. Donc, je vous invite aujourd'hui à plonger dans l'univers insolite de Jean Follin et j'espère que vous apprécierez, comme moi, la faculté d'attention aux gens et aux choses d'un poète qui, comme le dit Henri Thomas dans la préface du recueil « Exister », veut, je cite, « refuser l'illusion lyrique, vaincre par le langage commun l'angoisse de l'homme sans assise dans la durée ». Il dit aussi que Jean Follin chérit tout un monde de coutumes qui subsistent par quelques objets. « C'est là peut-être, écrit-il, que la réalité vient au plus près de l'esprit, dans le silence, fût-ce sous les espèces de quelques articles de métal. » Et il cite alors ces deux vers de Follin dans un poème intitulé « Quincaillerie ». « Il suffit de toucher verrou et croix de grille pour sentir le poids du monde inéluctable. » Pour vous donner une première approche de Jean Follin, voici le poème dans son entier. Dans une quincaillerie de détails en province, des hommes vont choisir des vis et des écrous. Et leurs cheveux sont gris et leurs cheveux sont roux, ou roidis ou rebelles. La large boutique s'emplit d'un air bleuté. Dans son odeur de fer, de jeunes femmes laissent fuir leur parfum corporel. Il suffit de toucher verrou et croix de grille, qu'on vend là, virginal, pour sentir le poids du monde inéluctable. Ainsi, la quincaillerie vogue vers l'éternel et vend à satiété les grands clous qui fulgurent. L'extrait musical que vous venez d'entendre est le début d'une pièce du compositeur estonien Arvo Pärt, une pièce qui s'appelle « Fratresse » et qui est interprétée par Gideon Kremer au violon et Keith Jarrett au piano, qu'on entend un peu jusqu'ici, mais davantage dans la suite, comme vous allez vous en rendre compte. Ce n'est pas la première fois que je choisis Arbo Pärt pour accompagner des poèmes, mais cette fois, la singularité de ce compositeur contemporain, à travers le dépouillement qui caractérise ses œuvres, m'a paru convenir particulièrement bien à la poésie de Jean Follin, qui parvient, lui aussi, avec un minimum de moyens, à aller au cœur des choses. C'est pourquoi vous entendrez tout au long de cette heure des pièces d'Arvo Pärt, seules comme ici, ou en accompagnement des textes. De même qu'il brosse en quelques vers à la façon d'un miniaturiste l'ambiance d'une quincaillerie avec les hommes qui y passent, Jean Follin dépeint souvent dans ses poèmes une séquence de la vie de ses contemporains. Et c'est comme un mini-documentaire qui laisse entrevoir tout un univers. En voici quelques exemples avec la suite de la même pièce d'Arvo Pärt. Les métiers. Le jour a frappé ses médailles en multitude. La raison du bouvier est lisse et le corroyeur qui chante un vieux chant de 48 ameuta les corbeaux et les moineaux dans les vergers. Les oreilles du boucher sont des bêtes vivantes près de son cartel. La boulangère se déshabille, douce comme la belle farine. La charbonnière compte son linge, l'ébéniste nettoie la médaille qu'octroya le gouvernement et le clerc bossu contemple par le trou d'un porte-plume la tour Eiffel. Adieu grand vent, adieu bergère, j'ai vu rentrer trop de moutons, petit enfant, dans les étables. L'épicier. L'épicier, époux de l'épicière, avec sa serpillière et ses doigts de crabe laineux, vend des pois chiches à la saison pluvieuse. Et puis ses grains de riz des Carolines, dents d'Andalouse, et puis la pipe en sucre rouge, qui dans la ville où la bâtisse croît, transfigure l'enfant à capuchon du crépuscule. Les corsetières. Par un soir de fin de mars, aux abords d'une maigre ville, leurs travaux remisés en tas et dans un parfum de bruyère, les corsetières s'étirent. Elles ouvrent les bras en croix, puis les raidissent au long des hanches. La cloche sonne, un lourd frisson parcourt leurs lombes mortelles. Les maçons de 1830. Placides, les maçons de la Creuse, en longue bande silencieuse, retraversaient Paris le soir jusqu'à leur dortoir de barrière et sans voir aux étalages, grâce aux monts, robes écumeuses, or et pierre de couleur, rêvassaient du retour à leur terre de vipères et de fondrières. Croisaient les pâles dandies vêtus de beaux draps aubergines et lières. Façonniers de nouveaux palais en troupeaux lents, ils retournaient vers l'attablement journalier, quand chacun soulève à son tour, dans les lambeaux du crépuscule, la terrinée de soupe épaisse. L'empailleur d'oiseaux. L'empailleur s'était assis devant les gorges roses, les ailes vertes ou mauves de ses passereaux, rêvant à son amante, au corps si différent, parfois si près aussi de celui des oiseaux, qu'il lui paraissait très étrange dans ses courbes et ses volumes, dans ses couleurs et ses parures et dans ses ombres. Gilles Presnitzer, fondateur du remarquable site Esprit Nomade, auquel j'ai déjà eu recours dans mes émissions, a consacré l'une de ses pages à Jean Follin. C'est donc à lui que je me réfère pour vous donner quelques indications sur l'auteur et sur son œuvre. Jean Follin naît le 29 août 1903 à Canisy, dans le sud de la Manche. Il s'installe à Paris en 1925 et c'est là qu'il commence sa carrière juridique, menant une vie plutôt grise, comme peut l'être celle d'un magistrat dont la véritable passion est la poésie. Il commence alors à écrire et il est beaucoup apprécié par les poètes de son temps. Guy Vic, André Dautel, André Fresneau, Henri Thomas, Paul Éluard, Pierre Reverdy, André Salmon. Sa courtoisie, sa prudente façon de respecter et d'admirer les autres, et surtout ses multiples facettes intriguent ses amis. En effet, il navigue de façon narquoise entre la vie en société et la fascination de la solitude, ne tenant pas plus que nécessaire à l'une ou à l'autre. Ses premiers poèmes datent de 1928. Son mariage heureux avec la fille du peintre Maurice Denis, Madeleine, donnera aussi de beaux livres d'artistes. Puis, il laisse tomber et la robe et la magistrature en 1959 pour vivre plus intensément. C'est à cette époque qu'il voyage beaucoup. Il va au Brésil, au Japon, aux États-Unis, en Afrique. On dirait qu'il veut rattraper tout le temps immobile et prendre de vitesse sa mauvaise santé. En fait, il va mourir accidentellement, tué par une voiture, lui qui les haïssait, le 10 mars 1971 à Paris, place de la Concorde. En parlant de l'œuvre de Follin, Gilles Presnitzer dit avec raison que sa poésie est singulière, à l'opposé de la mode ambiante du surréalisme. Il y a quelque chose d'insolite chez ce poète qui se refuse à utiliser les images et les métaphores, leur préférant les cailloux du réel ramassés sur sa route. Follin disait « Tout fait événement pour qui sait frémir ». Selon Presnitzer, toujours, Follin nomme, dénomme précisément, toujours avec une voix presque chuchotée, mais avec le mot juste. C'est un irréductible, un humble vagabond, un simple de tous les villages, qui sait tous les anciens grimoires, les vieux outils, les anciens rites. Amant de la secrète beauté, il ne peut concevoir le monde sans les petites choses qui font les humains respectables, leurs peurs, leurs rêves, leurs amours. Il semble cacher des témoignages secrets au fond de ses mots. Je vous propose maintenant d'entendre plusieurs de ces textes dont le titre inclut chaque fois le mot « paysage ». Mais les paysages dont il est question ne sont pas des descriptions de différents coins de campagne, mais plutôt des tableaux plaçant des humains dans leur cadre de vie, des tableaux dans lesquels évoluent souvent plusieurs personnages, dont les caractéristiques s'additionnent pour donner une tonalité générale, un peu comme le fait un peintre dans son cadre ou un photographe qui capture dans son objectif un moment de vie. Ainsi, de la même façon que le peintre choisit sa palette de couleurs et que le photographe choisit son cadrage, Jean Follin choisit ses mots pour imprimer son regard sur cette réalité particulière, non pas pour faire un livre d'images, mais pour restituer le frémissement de la vie. Et c'est sans doute grâce à son agencement judicieux que le poème nous touche, en dépit du fait que le sujet évoqué soit bien éloigné de nous, qui sommes les lecteurs du début du XXIe siècle. Je vous laisse en juger à l'écoute des textes qui suivent. Paysage d'aube. Les fariniers retrouvent leurs mains molles. Les juments tombent sur les genoux. La porteuse de pain croise dans sa mansarde sur sa poitrine un fichu noir. Les cloches des collèges sonnent et les statues s'éveillent. Les pistolets luisent aux devantures glacées et les ménagères attendent en bâillant le lait du jour. D'aucune porte, au bout d'une chaîne, dessinant sur leur peau l'ombre la plus ténue, des médailles tutélaires entre leurs seins bleutés. Paysage de la jeune fille devenant femme, à Pierre Macorlan. Au milieu d'acajou, loin des trembles, une jeune fille perd son premier sang. Dans le champ de la veuve, on scie des chênes, cependant que des doigts déplient les feuilles blanches au cœur frais des salades. Le notaire, seul près de ses chenets froids, figurant des femmes aux gorges sans mystère, dépose le masque chantourné de ses mensonges près des candélabres tordus. Les plantes dorment, les cristaux croissent, le verre est lisse sous l'azur sans fumée, la bille d'agate d'un écolier rutile dans un sacre muet, et le village entier fait à la jeune femme une ceinture de langueur. Paysage de l'enfant allant chez les régents. Ce grand silence liquide habitant les tonneaux, ces minuscules insectes s'essayant en vain à dévorer la peau des vierges, les charrons buvant près du chardon bleu, les frelons fabriquant leur miel blanc, l'abeille distillant son miel blond, les chaudrons fulgurants que l'on frotte de cendres mouillées, les bruits de fin d'orage. L'âcre fumée est la mauvaise herbe brûlée en tas dans les jardins à buis, est le portrait d'un roi au mur de la cuisine, et l'argile est le plâtre dans les royaumes humides. Tout est courrier d'une impossible aurore. Voilà qu'elle est déjà tout en haut de la côte, la veuve qui conduit par la main jusqu'au lointain collège l'enfant à tignasse rouge. Paysage des enfants de l'école buissonnière. La dentelle, la robe et les bras blancs, sans souci de la mort, tachaient le bocage. Et les enfants de l'école buissonnière, qui gobaient des œufs de pinson, tachaient sans souci le sillon. Des meutes d'archanges couraient aux chasses silencieuses, et la gourde cachée dans l'herbe, la moire des mares, et le cri sous l'ombrage, sur la route les cailloux blancs du cantonnier, les lavandières et les fileuses à la peau merveilleuse, l'appel lointain des tonneliers, et au carrefour, les chiens à drôles de figures formaient des éléments de cathédrale. Les enfants de l'école buissonnière chantaient ensemble maintenant, rassasiés d'œufs d'oiseaux, écrasant de leurs sabots les mottes ocreuses barbouillées de jus rouge. Paysage des sentiers de lisière, à Jules Supervielle. Il arrive que l'on entende, figé sur place, dans le sentier aux violettes, le heurt du soulier d'une femme contre l'écuelle de bois d'un chien par un très fin crépuscule. Alors, le silence prend une ampleur d'orgue. Ainsi, lorsque l'adolescent, venu des collèges crasseux, perçoit sous les peupliers froids la promeneuse au frémissement de sa narine émue par le parfum des menthes. Toutes les lueurs des villages se retrouve dans le diamant des villes. Dans un univers mystérieux, ayant laissé sur ses genoux l'étoffe où s'attachaient ses yeux, une fille, en proie aux rages amoureuses, pique de son aiguille le bout de ses doigts frêles près d'un bouquet qui s'évapore. Paysage de rurales douleurs. Des fruits tombe doucement sur la terre serrée et le vieillard, au trop court capuchon d'enfant, suit le chemin d'un pas menu jusqu'à l'extrême. Un petit jardin de cive tremblote sous les étoiles. À l'habitation du tournant, une roue bleue au mur s'appuie. Le charron et ses aides forment, mangeant debout, un groupe muet semblant attendre pour réduire dans un dernier effort la misère et la peur du monde. Comme les personnages qui cohabitent dans les poèmes de Jean Follin, ce sont ici les voix du cœur qui se mêlent au son des cordes dans cette pièce d'Arvo Pärt de 2010, intitulée « Alléluia, Tropus ». Le moins qu'on puisse dire est que les paysages de Jean Follin ne respirent pas la joie de vivre, tout particulièrement dans le dernier que je vous ai lu, qui se termine par ces mots « réduire dans un dernier effort la misère et la peur du monde ». Mais on ne peut pas dire pour autant que Follin jette un regard cruel ou désabusé sur le monde. Il s'agit plutôt, à mon avis, d'une conscience aiguë du caractère éphémère, des joies comme des peines. Et l'écriture est peut-être une façon de rendre grâce à celles et ceux qui parviennent justement à réduire la misère et la peur du monde. Dans un texte théorique, Follin affirme que la raison de vivre du poète est de tout sauver par un verbe le plus exactement pur. Donc tout sauver, ça revient aussi à préserver la mémoire des choses. Et le désir d'inventaire est chez lui très présent, comme dans ce poème. L'histoire. Comme l'histoire au monde par moments apparaît triste, le dîner lourd refroidit, le tribun ne revient pas, sa maîtresse suit ses rêves plus tard. C'est l'arrachement, la fusillade étouffée, les cloches d'un grand congrès sur lequel la nuit tombe, alors que dans les chants de son enfance éternelle, le poète se promène, qui ne veut rien oublier. Cette enfance éternelle dont il est question ici irrigue nombre de ses poèmes. En voici la preuve à travers plusieurs d'entre eux, accompagnés pour les quatre derniers d'un extrait de Silwan's Song, une pièce d'Arvo Pärt pour orchestre à cordes, de 1991. L'ordre. L'écolier qui balayait la classe à tour de rôle était choisi. Alors, il restait seul dans la crayeuse poussière, près d'une carte du monde que la nuit refroidissait. Quelquefois, il s'arrêtait, s'asseyait, posant son coude sur la table aux entailles, inscrit dans l'ordre universel. L'enfant de l'amour. Par la fenêtre donnant sur le labour, on voit briller des ustensiles de cuivre ardent. Le fagot du bûcher garde l'infime débris d'une plume de fauvette. Hommes et femmes s'en sont allés. Resté seul, l'enfant de l'amour, au fichu lié sur sa maigre poitrine, voit dans la bille d'agate s'enlacer les couleurs. Les enfants. Les enfants jouent au théâtre jusqu'à l'heure du souper dans la nuit qui vient. Alors les grandes personnes les appellent. Le garçon a les yeux si clairs. Puis voici celle qui mourra jeune et celle dont sera seul le corps. Tous se lavent les mains dans l'ombre, près des végétaux flamboyants. Ils sont encore dans ce temps que l'on vit dans l'éternité. Le retour. Entre une fillette pour réclamer son père chez le marchand de vin. Il sacre, mais finalement suit la silhouette pâle à la natte ouvragée, qui marche de l'avant, tournant parfois la tête pour s'assurer qu'elle a bien sur ses pas cet ivrogne-là à la blouse glacée et dont sourit l'épouse, le buste pris dans un corsage d'ombre. Chien aux écoliers. Les écoliers, par jeu, brisent la glace dans un sentier près du chemin de fer. On les a lourdement habillés d'anciens lainages sombres et ceinturés de cuir fourbu. Le chien qui les suit n'a plus d'écuelle où manger tard. Il est vieux car il a leur âge. L'enfant conduit au cirque. À la voisine venue pour mener son enfant au cirque dont roulaient les tambours, « Il ne faut pas, disait la mère ardente, qu'il soit mis comme va-nu-pied. » Elle tendait donc les plis du tablier noir, y grattant d'un ongle brisé des larmes de boue. Un soir de beauté descendait, qui s'épanouirait à la fin du cirque, en grande nuit glacée. le collégien fatal. Pâle bourgade, où les jardins mûris s'étendent, c'est vers vous que revient le collégien grossi, ceinturé de cuir noir, que des filles en cheveux appellent au bout du champ, dans les apprêts du soir. Goguenard, avec serpette en main, on l'envoya chercher pour les lapins l'herbe coupante. Il va, cassant les branches, mâchant des pétioles sucrées ou bien des fruits amers. Il passe devant l'étang rosâtre. On le voit courir, la blouse au vent gonflé, l'ongle rongé au sang, la paille dans les cheveux. Sourdement, en lui naît l'homme aux ordres infâmes qu'il sera un jour, entre quatre murs blancs, au milieu d'épées nues, par fatalité dégainées. Les femmes sont présentes aussi dans la poésie de Jean Follin. Tantôt dans la vie quotidienne à part égale avec les hommes, comme on a pu l'entendre dans les textes précédents, tantôt comme unique sujet du poème. Et la plume de Follin se teint alors d'un subtil mélange de tendresse et d'âpreté qui témoigne d'une même volonté d'être, comme dans ces paysages, au plus juste de la peinture des rapports humains. Enfantement. L'enfant tremblait en elle, au milieu des tissus roses, des veines bleues, du fiel sombre. On voyait à travers la ville cette femme dont les yeux, avec tout son corps, exprimaient la résignation aux épuisantes constructions de la chair et du sang. Devoir. Retrouver un fil d'or dans la maison mortuaire, garder intact en mémoire le hameau d'argile, regarder avec miséricorde les travaux minutieux, épouser un corps un soir de fête en hommage à la vérité nue, sont les tâches qu'elle se donne avec ses yeux éblouis. La brodeuse d'abeilles. Dans ses bras, on eût connu le goût d'être et de durer. Elle brodait seule les abeilles au manteau du sacre, malgré les épingles piquées à son noir corsage ajusté, elle demeurait au cœur d'une beauté formelle, plus intense, les yeux fermés après qu'on l'avait regardée. Les ménagères. Des ménagères aux nuits montantes disaient n'avoir rien fait du jour, et sur son lit, un moribond les entendait. L'une parlait d'une voix cristalline, et son corps, d'une beauté grave, portait dans ses bras un enfant à bavoir, à ruban terni, et qui toussait aux fumées montant des feux brûlant l'herbe dans un jardin silencieux. Jusqu'au dernier chant des oiseaux, s'étant longuement plainte, elle se quittait enfin pour jeter le sel à leur bouillon du soir. Ode à l'amour juvénile. Collégien qui rêviez de détruire l'édifice des chevelures, vous adoriez en toute femme de vivantes statues. Et déjà les plus grands connaissaient la servante chevaline et bien dentée qui rôdait autour des casernes, avec son tablier blanc si frais près des pantalons rouges. Certes, rendre la servante serve eût été l'affaire d'un soir parfumé de mauvais jasmin. Mais combien plus belle était la dompteuse, seule avec Sultan dans la cage, huppée, cruelle et charmeuse, et pourtant si douce, quand elle donnait le sein à l'enfant de ses avatars. Alors, elle décrafait sa veste à brandebourgs dans cette petite ville du bord de la mer. Amour. Allons parmi les trèfles et les menthes. Nous rencontrerons des bêtes silencieuses et digérantes. Nous mêlerons nos ombres, la terre sucrera ses germes, la blette et l'ombre chevalier fileront sous l'eau des rivières, et je prendrai tes doigts s'écartant dans les mauves. Un puceron grimpe à ta joue, et quand je prends ton poignet frêle, j'entends tout le bruit des campagnes. J'écoute par surcroît tout ton corps se défaire, et je cherche sur toi de l'épiderme mort. Je sais, les peaux des ongles sont enlevées strictement. Il y a, sous ton cou, une trachée sanglante. Le voyageur rencontrera ce soulier dans l'herbe, tout blanchi comme un os. Toilette des servantes de campagne. Lorsqu'elles lavaient leur corps au léger embonpoint, qu'on nuageait la poudre des granges, muettes et graves, elles enlevaient les barbes d'épi à leur chair accrochée, écoutaient un moment leur cœur. Les harpes torses des poiriers avaient gémi et la console avait tremblé, puis le vent s'était tu. Alors elle quittait la chambre avec lenteur, laissant nager dans sa blondeur ténue un cil près d'une fleur dans un verre d'eau. Méditation près d'un lit vide. Les draps avaient moulé sa forme, ses secrets en furent dévoilés. Si le flot garde bien les siens et le ravin plein de genêts, il se peut qu'une femme laisse d'humbles choses parler. Elle peut pourtant ne pas glacer l'eau merveilleuse de ses yeux pleins d'algues, d'azur ou de charbon. Elle peut de ses longs doigts tisser. Elle peut, finement gréer, comme un navire, appareiller et gazouiller jusqu'au matin. Notairesse. Des femmes aux craquantes robes de soie causent dans le chemin. Les insectes de l'été se sont pris dans les balayeuses de leurs robes, leur voix est grêle, leur buste fourni et leurs mains toutes petites. La plus pure porte un bouquet de digitales sur son cœur. Elles n'ont guère plus de 20 ans et sont pourtant des femmes de notaire. Avec leurs éventails nacrés et leur enfance qui s'en va, elles ont déjà posé dans la dorure du siècle le premier corset déposé dans la chambre à deux, leur laissa un souvenir brûlant. Puis il leur devint bon de frissonner dans une longue chemise, tous cheveux épandus, alors qu'au dehors sévissaient les tornades, faisant tomber les pommes des hautes branches. Sous l'arbre. Le feuillage fleuri ombrage toute la femme. Ce même vent qui perd de langueur les grands élèves soulève ses jupons bouillonnés. L'homme, debout près d'elle, croise ses bras pris dans de courtes manches, inspecte l'horizon, se mord la lèvre, distingue le son royal des cogniers. Le silence tombé, la fille endormie fait entendre un sifflement léger montant de sa poitrine exquise. Nuit secrète du consul. Collant son corps nu à celui vêtu du consul, elle déchira un grain de la peau de sa gorge aux broderies de son habit, qui figurait des rameaux d'olivier. De haute taille et le regard perdu, il la laissait pleurer à chaudes larmes. Le ciel de cette nuit-là fut traversé d'une pluie d'étoiles. Le chien se plaignait près d'une pâtée sèche, une fine poussière voilait la bobèche de verre du chandelier de cuivre. Les gémissements de la femme, sous le cercle blond que faisait au plafond la lumière, éveillaient peut-être un faible écho dans les campagnes où les entendaient les bêtes à l'ouïe très sûre. L'heure sonna à diverses pendules. C'est alors qu'il prit sur la console ses gants crais et le chapeau à plumes blanches. Les cristaux invisibles du sel des pleurs évaporés devaient alors se composer dans l'ombre. Avec ces deux derniers poèmes, vous venez d'entendre le début du Stabat Mater d'Arvo Pärt. Quelques textes maintenant qui mettent en scène des animaux, non pas pour eux-mêmes, mais toujours en rapport avec les humains, comme dans ces paysages que nous avons entendus précédemment. Mort du furet. Entré dans un terrier, il pénétra jusqu'au lapin hagard, suça son sang, s'en saoula, s'endormit. La fumée des feux de brande allumée par les paysans chiches, qui parlent par monosyllabes, ne le réveilla pas d'une mortelle torpeur. Sur le chemin, s'en revenaient ses petites filles au cœur à nervures aussi nettes que celles des feuilles du lilas. Le lapin saigné demeura sans odeur, mais les furets, dès qu'irrités, dégagent une morne puanteur qui survit tristement après leur mort crépusculaire. Le renard. Dans nos nuits, parfois, rôde un renard qui sur la terre dormante cherche un vivre hasardeux, frôlant la feuille sucrée, et d'un long rêve de rapine, d'enfance et de honte, empli pourtant des mystères du pain chaud et du feu ardent des chaumières, l'on s'éveille, la gorge altérée. Les frais. On dit que l'effraie boit l'huile aux lampes du sanctuaire dans les églises de village. Elle entre par le vitrail brisé dans ses heures de nuit, quand les bons et les violents s'endorment, quand l'orgueil et l'amour s'épuisent, quand le feuillage rêve. La bête réchauffe son sang avec l'huile éclairante et vierge. Poissons. Les poissons, vus par l'économie, sont abaissés par des mains éplucheuses, grattant l'écaille, scrutant l'œil mort, alors qu'au jardin ploient les tiges et que l'air pur qui passe par l'entrebâillement d'une fenêtre flatte une femme qui se dévêt et qui jamais n'a vu la mer. fourmi noire. Les mains aux poches, ils regardent le monde des fourmis noires. Leur sang couleur de lac, leurs aiguillons, leurs larves blanches, frémissantes aux vibrations d'une cloche. Son violon de jeune homme dort dans un coffre, et la nuit va semer ses étoiles sur la carte céleste. Il me semble que ce qui appartient en propre à Jean Follain, si on le compare à d'autres poètes, c'est justement peut-être l'élément clé de sa singularité, et c'est cette faculté qu'il a d'associer dans un même texte des éléments très divers, qui, par le fait même de leur juxtaposition, produisent un mélange insolite qui capte l'attention du lecteur, alors que, pris séparément, ils sont d'une entière banalité. Ainsi, dans le dernier poème que vous avez entendu, les fourmis noires sont un point de départ, puis, en passant par le violon du jeune homme, on arrive jusqu'à la carte céleste, avec la nuit, bientôt noire elle aussi. En trois éléments, on passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Je trouve aussi que dans beaucoup de ses poèmes, Jean Follain use du langage comme d'une caméra. Une caméra qui zoome sur un détail, puis soudain l'angle s'élargit, ou bien l'objectif vient zoomer sur un autre détail. Et ce changement permanent de point de vue est sans doute ce qui concourt, avec le choix judicieux des mots et des sonorités, à rendre palpable, aux yeux et aux oreilles du lecteur, ce frémissement de vie que recherche le poète. Et je parle des oreilles car, étant convaincu de manière générale que la poésie est faite pour être dite à haute voix, je le suis encore plus pour ce qui concerne celle de Jean Follain, que j'ai moi-même plaisir à mettre en bouche, et j'espère que c'est aussi pour vous un plaisir d'en déguster la matière sonore. Le poète René Char, qui n'avait pas le compliment facile, a trouvé les mots justes pour louer la poésie de Jean Follain. En 1977, il disait ceci. « Jean Follain occupe une place dans la poésie, mobile comme l'est une source à flanc de coteaux, car celle-ci hante toute chose, d'abord par son nom même et la vitesse où on la cherche, où ce sera une grâce de la trouver. Ensuite, parce que devenue cours d'eau, elle irrigue alors une géographie composée à l'extrême, civilisée par les ouvrages et les coutumes de ses habitants. Eux, toujours en mesure d'étirer, d'écarteler leur civilisation nerveuse. » Noble plume de Jean Follain, poésie de plus en plus aimée de beaucoup. Alors continuons, si vous le voulez bien, avec une série de poèmes en lien avec la mort et accompagnés d'une dernière œuvre d'Arvo Pärt. Il s'agit du deuxième mouvement d'une pièce pour piano et orchestre ayant pour titre « Lamentate ». L'uniforme blanc. L'on ramena le fils du paysan dans l'uniforme blanc de Fontenoy, près de sa mère, par un fruste matin plein de cailles. Au ciel, point de quadrige ailé. Il râla dans la chambre où les oignons sèchent, dans le calme des murs chaulés. Ô soldat laboureur à l'uniforme blanc, ce blanc crissait en moi comme la craie du collège. Bluette. Tous les étés, le bistrot faisait tondre ses 5 enfants. À l'enterrement de la grand-mère, il les affubla de gants noirs, c'était en Dauphiné. Ils reprirent tous 6 le train pour Paris le soir même, avec 2 valises et 3 gemmes appartenant à la défunte. Sur la peau rousse des petits se lisaient l'amour et la haine. de la coupe aux lèvres. Le forban s'inquiète, qui ne sait pas comment annoncer à sa victime qu'il va l'exécuter. Elle sourit encore à quelques roses solitaires. Comment faire ? Une vache meugle au loin, un peintre lilliputien qu'on ne voit pas, parfait l'écaille des bourgeons. Les routes pleines d'insectes fous se moquent des hommes. Enfin, le meurtre se commet. Ô minute embaumée, suspendue entre la vie et la mort, entre la chair et l'acier. Aperception de la mort. Quand les maisons se penchent un peu, des filles aux fenêtres se montrent, tandis qu'au fond d'une pièce noire, luit le peu d'or d'une montre suspendue aux clous rouillés. Et les vengeances au faubourg font jaser. La marâtre arrive et sourit, tenant des lilas. Chacun a fortement prédit que bientôt, enfin, elle sera prête pour la fosse commune. Savates, à la crasse cirée, vous serez sur le carreau rouge, dépossédé de ses pieds noirs, prise de l'hirsute chiffonnier ou jeu de quelque chat sauvage. Savates, vous irez rejoindre un amas de vieux étendards, tandis qu'elle ne sera plus là, cachant des lettres en son corsage, épiant les démolitions dans le quartier qu'on reconstruit, et criant un pain sous son bras à l'entour des mortiers fumants. Mercerie. Mercerie, ô néant des percales à chimères, des bobines de fil, dont, dénudé, l'enfant fera pour son chariot des roues, des tresses et des galons qui, sur la robe de la morte, serviront de chemin tortueux aux fourmis, aveugles à la beauté charnelle sous le soleil de midi. La mort. Avec les os de bête, l'usine avait fabriqué ces boutons qui fermaient un corsage sur un buste d'ouvrière éclatante. Lorsqu'elle tomba, l'un des boutons se défit dans la nuit et le ruisseau des rues alla le déposer jusque dans un jardin privé où s'effritait une statue en plâtre de pomone, rieuse et nue. Vie. Il naît un enfant dans un grand paysage. Un demi-siècle après, il n'est qu'un soldat mort. Et c'était là cet homme que l'on vit apparaître, et puis posé par terre, tout un lourd sac de pommes, dont deux ou trois roulèrent, bruit parmi ceux d'un monde où l'oiseau chantait sur la pierre du seuil. Ce qui paraît aller de soi, car exprimé avec des mots simples et d'un abord plutôt facile pour le lecteur, dissimule en fait un réel travail de maturation que Follin, interrogé sur son mode de création, définissait ainsi. Il se peut, certes, qu'un poème soit réussi d'un seul coup. Cela, pour moi du moins, reste une exception. Quand un poème que j'ai conçu et écrit ne parvient pas à tenir, à se situer, à exister, je le classe pour le retrouver plusieurs mois, plusieurs années même après. Alors, à ce moment, et parfois à la faveur d'un mot enlevé ou rajouté, le poème se met à tenir. C'est cela même qui faisait que Max Jacob un jour m'écrivait, lors de son premier séjour à Saint-Benoît-sur-Loire, « La poésie est une affaire de mise en cave ». Voici pour terminer l'émission et ajouter une dernière note au paysage de Follin, quatre poèmes de lui que j'affectionne particulièrement. Parler seul. Il arrive que pour soi, l'on prononce quelques mots, seul sur cette étrange terre. Alors, la fleurette blanche, le caillou semblable à tous ceux du passé, la brindille de chaume, se trouvent réunis au pied de la barrière que l'on ouvre avec lenteur pour rentrer dans la maison d'argile, tandis que chaises, tables, armoires s'embrasent dans un soleil de gloire. La cour murée. Il est seul dans la cour murée avec un jouet dont bat le ressort fatigué. Une plume s'envole qui s'en vient retomber sur la terre où s'affrontent les forces de l'amour, celles aussi de la peur. Le mur étincelle. Son faîte est recouvert de ses gros tessons verts, arrêtant les voleurs. L'existence. L'homme, aux politiques sombres, dans un boudoir bouton d'or, vit se dénouer un chignon noir. Les cheveux roulèrent comme un gave. Dans ce gave croulaient des roses. Et dans une rose, l'insecte muet n'abdiquait pas son existence et gravissait seul, doucement, le pétale ému de la fleur cueillie au ravin de la mort au cours d'une longue journée. Les images. Un enfant qu'on soulève un peu, un vin foncé, des feuilles tressées en couronne, un corps vibrant jusqu'au plus doux aveuglement, n'impose parfois aucun désir de dénouement, mais forme dans les yeux d'éphémères images qu'on se remémore au crépuscule à bruyère noire. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous rappelle les titres des deux ouvrages de Jean Follin dans lesquels j'ai puisé les poèmes que vous avez entendus aujourd'hui. « Exister », suivi de « Territoire » et « Usage du temps ». Je vous donne rendez-vous au mois de novembre, plus exactement au jeudi 18 novembre à 14h, ou si vous préférez le dimanche 21 novembre à 13h. Et si vous ratez le direct, je vous rappelle que toutes les émissions sont en réécoute sur le site de Radio B. À bientôt. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.